Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Paloma Soria-Brun et Iseut Sicar. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la technique, Inès De Bruyne.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Ils ont gagné une année de répit. Les intermittents du spectacle ont obtenu une prolongation de leurs droits pour surmonter la crise. L'épidémie du Covid-19 a mis le monde de la culture à genoux et ce sont des milliers de comédiens, chanteurs, musiciens et techniciens qui se retrouvent aujourd'hui sur le banc de touche. Les projecteurs sont à nouveau braqués sur ce régime si souvent décrié de l'intermittence. C'est son histoire mouvementée et méconnue que nous allons examiner dans l'heure qui vient. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Avec nous sur la scène virtuelle d'Entendez-vous l'écho, Isabelle Feldman, secrétaire générale au sein d'Audience, le premier groupe de protection sociale du monde de la culture. Avec nous également Mathieu Grégoire, sociologue, maître de conférences à l'université Paris 10 et auteur de l'ouvrage Les intermittents du spectacle, enjeu d'un siècle de lutte de 1919 à nos jours, publié aux éditions La Dispute. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous à distance.
Je pense que vous êtes sur une ligne de crête. Vous marchez sur votre petit chemin sinueux, votre route, comme vous aimez à le dire, très haut, presque dans le ciel, près des nuages. Bah, là où vous vous sentez bien, là où se trouve l'inspiration, j'imagine. Alors, quand votre roman est sorti, il faisait bon vivre en haut de cette montagne. La reconnaissance, l'argent, tout semblait quand même indiquer que vous étiez à l'aube d'une belle carrière.
Ah oui, c'est sûr, je sais. Ouais.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous sauriez dire, vous? C'est étrange quand même, toutes ces longues années passées sans écrire, après un tel succès. Avouez que ça interroge.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas, j'ai pas d'explication toute faite, là. Je sais pas, la vie, il y a des hauts, il y a des bas. J'ai un copain là qui a divorcé, là. Ça fait 5 ans qu'il est dans des histoires d'avocat. Bah, il s'est pris 5 ans dans la gueule, comme ça. Et bah, pendant ça, il travaille pas, hein. Bah, moi, c'est pareil. Voilà. Moi, je me suis pris aussi des coups dans la gueule, hein. Je sais pas, j'ai pas fait le bon choix d'éditeur. J'ai ma famille, là. Et puis, je sais pas, la mort de Manu. Enfin, merde, c'est des trucs qu'il faut encaisser, quand même, là. Je sais pas, la vie est dure, hein, docteur. Désolé. Mais c'est pas vrai que j'écris pas. J'écris, et j'écris tous les jours. Je travaille. Je peux vous montrer, là, j'ai 15 romans qui attendent dans la chambre.
Les déboires d'un écrivain en panne d'inspiration, ici en pleine discussion avec sa psy. Extrait du ciel étoilé au-dessus de ma tête, une comédie déjantée d'Ilan Clipper avec Laurent Poitrenaud et Camille Chamou. C'est une scène qui joue avec les clichés qui entourent le métier d'artiste, Mathieu Grégoire.
Avec les clichés peut-être, mais pas seulement avec les clichés. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont profondes dans cet échange-là. C'est-à-dire que la première chose, c'est l'idée d'activité vocationnelle qu'on entend à la fin de l'extrait, puisqu'il explique qu'il travaille, il travaille, il travaille, que, quelles que soient les circonstances, il y a une forme d'inversion des fins et des moyens dans cette activité économique particulière par rapport à, notamment à ce que raconte la théorie économique standard, c'est-à-dire que le travail n'est pas une peine qu'on considère comme un moyen pour gagner sa vie, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que le travail prime, la production prime, et on cherche des moyens pour atteindre la fin que constitue ce travail. Et la deuxième chose qui me paraît intéressante dans l'extrait, c'est le fil sur lequel se trouve l'auteur, c'est-à-dire l'idée qu'il est totalement exposé à l'aléa économique et que, ma foi, quand le succès est là, tout va bien, et quand le succès n'est plus là, matériellement, les choses deviennent extrêmement compliquées. Donc ces deux éléments-là, cette exposition à l'aléa économique et l'aspect vocationnel de l'activité, me paraissent en l'occurrence, deux fils dont on peut tirer beaucoup de conséquences.
Et ce qui interpelle, c'est la diversité des acteurs du monde culturel et des intermittents du spectacle. C'est un régime qui recouvre des métiers extrêmement différents, Isabelle Feldman?
Oui, bien sûr, puisque on va avoir toutes les listes des métiers qui vont être visés soit dans les annexes 8 et 10 et aussi dans les conventions collectives, hein, puisque pour moi, l'intermittence, c'est le fruit du dialogue social et le fruit de l'action des syndicats représentatifs des professions et du secteur culturel en cause, c'est-à-dire la production cinématographique, la production audiovisuelle, le spectacle vivant, privé, public, l'édition phonographique. Je ne pense pas oublier ces secteurs. Ce sont des secteurs qui sont réglementés. En fait, ce CDDU, justement, est circonscrit à des secteurs particuliers et ces secteurs sont visés dans des dispositions, dans des décrets, en fait, dans des dispositions réglementaires, même rattachées aux dispositions du Code du travail.
Diversité des acteurs de la culture et diversité des indemnités perçues, Mathieu Grégoire.
Diversité des indemnités perçues, je ne sais pas. Enfin, la plus grosse des diversités, c'est celle qui oppose ceux qui ne sont pas indemnisés du tout, parce qu'ils n'ont pas fait leurs heures, qui sont dans une grande précarité, et ceux qui bénéficient d'une indemnisation. Ensuite, le dispositif qui a été mis en place à partir de 2016 est relativement égalitaire. En tout cas, c'était l'ambition des partenaires sociaux, de la Fédération CGT du spectacle en particulier, qui a été un peu la cheville ouvrière de cette négociation, d'avoir un dispositif qui est relativement égalitaire, d'ailleurs trop égalitaire pour certains, les moins intermittents des intermittents qui se plaignent d'avoir perdu à cette réforme.
Les intermittents du spectacle qui, on le sait, sont aujourd'hui particulièrement touchés par la crise économique et sanitaire. Et face à la paralysie du secteur, le chef de l'État a donc décidé de leur accorder une année blanche.
Je vous ai entendu, c'est unanime, et je l'ai entendu, il y a le sujet de l'intermittence. Je crois que c'est Catherine qui disait que ce mot était bizarre, parce que ça ne correspond pas à ce que vivent celles et ceux qui sont dans la culture, qui soient artistes, techniciens. Au fond, c'est de dire... On a quelques heures de travail qui sont reconnues, parce que c'est vrai que les heures qu'on compte pour l'intermittence ne représentent pas tout ce qu'un artiste ou un technicien fait en dehors de ce temps où il est devant un public. Mais ce qui est clair, c'est que beaucoup ne pourront pas faire leurs heures là. Moi, je veux qu'on s'engage à ce que les artistes et techniciens intermittents soient prolongés d'une année au-delà des 6 mois où leur activité aura été impossible ou très dégradée, c'est-à-dire jusqu'à fin août 2021. Ma conviction en faisant ça, c'est que je vais donner, c'est cette fameuse année blanche, je vais donner suffisamment confiance pour que quasiment on n'en ait pas besoin. Je vais vous dire pourquoi, parce que je pense qu'on va donner, par ailleurs avec beaucoup de projets, les heures qui permettront de créer et à tous ces artistes et ces techniciens de ne pas activer ces dispositifs. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une précarité immense sinon, et une forme d'effondrement psychologique, en tout cas de perte de confiance, qui fait que sinon, on n'y arrivera pas. Et donc, sur l'intermittence, avançons dans ce dispositif qui est en effet unique, et ok. On y va, on s'engage.
Une décision accueillie avec soulagement par les intermittents, même s'il reste encore des points à éclaircir, Mathieu Grégoire.
Moi, ma réaction, elle serait un peu double. D'abord, la première, c'est le caractère incroyable, finalement, de la mobilisation sociale des intermittents du spectacle. C'est-à-dire, c'est un mouvement social qui parvient en plein confinement, sans manif, sans rien, sans même pouvoir menacer d'annuler le festival d'Avignon qui est déjà annulé, en 10 jours. Obtient des résultats significatifs, en tout cas oblige le président de la République à cet exercice. Donc ça, c'est la première chose qui est relativement admirable pour des salariés à l'emploi discontinu qui sont supposés être les moins mobilisés, les moins mobilisables possibles dans la théorie sociologique habituelle. Voilà. Mais la deuxième réaction, c'est sur l'ambiguïté profonde de la promesse du président de la République et l'ambiguïté aussi du ministre de la Culture qui a répondu ensuite à plusieurs députés et sénateurs de façon extrêmement peu compréhensible, dans le sens où on promet une année blanche, mais ce que demandent les intermittents quand ils demandent une année blanche, c'est un renouvellement automatique d'un an pendant toute la période qui sera affectée par la baisse de l'activité actuelle. Or, ce qu'on croit comprendre de ce que propose le président de la République et le ministre de la Culture, c'est un prolongement des droits jusqu'au 1er septembre 2021. Or, actuellement, il y a plein d'intermittents qui vont avoir des droits jusqu'en juin 2021 sans qu'il se passe rien. C'est-à-dire, ils ont déjà leurs heures parce qu'ils ont travaillé pendant l'année dernière, donc ils vont, pendant l'année prochaine, bénéficier d'allocations chômage, et en juin 2021, ou en mai 2021, on va leur dire, on vous prolonge de 3 mois. Donc il n'y a pas du tout, contrairement à la présentation initiale, il n'y a pas totalement le gain d'une année.
Ce ne sera pas une année de plus pour tout le monde.
Pas exactement, alors que c'est ça qu'ils réclamaient, c'est-à-dire ils réclamaient en juin 2021 de pouvoir être renouvelé jusqu'en juin 2022.
Isabelle Feldman, vous saluez cette décision du gouvernement, même s'il y a des limites que l'on peut pointer?
Oh ben bien sûr, il faut voir ensuite les textes qui vont l'aménager pour voir comment ces artistes et techniciens intermittents vont pouvoir bénéficier d'un prolongement. C'est déjà un premier pas, c'est pas négligeable. Et il faut voir ensuite comment tout ça va être mis en œuvre par les textes réglementaires. Vous savez comment c'est une annonce. Il faut voir les textes, voilà ce que je dis, avant de pouvoir juger. Mais c'est vrai que je rejoins Monsieur Grégoire, que c'est certainement le fruit de l'expression à nouveau des organisations représentatives.
Le collectif d'artistes qui avait lancé l'alerte dans le journal Le Monde a publié une nouvelle tribune le 9 mai dans le journal Libération, cette fois, pour plaider la cause de tous ceux qui multiplient les contrats courts et ne bénéficient pas du régime d'intermittent, notamment les attachés de presse qui ont créé un collectif, le CLAP, le Cercle Libre des Attachés de Presse de Cinéma. Ils font partie de ces invisibles du secteur culturel, Mathieu Grégoire, qui ne bénéficieront pas de cette année blanche.
Oui, il y a les attachés de presse, mais il y a aussi tout un tas de salariés à l'emploi très court, à l'emploi discontinu, qui ne relèvent pas directement du spectacle, c'est-à-dire à toute l'hôtellerie, restauration, à tous les extras qui travaillent dans l'événementiel et qui sont aujourd'hui dans une situation très compliquée. La situation d'emploi est très proche de celle des intermittents du spectacle et ils réclament aujourd'hui, pour la première fois d'une certaine manière dans l'histoire, ils se mobilisent dans ce sens, ils réclament de bénéficier d'un régime d'indemnisation qui soit comparable à celui des intermittents du spectacle au moment où la réforme de l'assurance chômage, elle, prévoit d'anéantir d'une certaine manière, en tout cas de diminuer extrêmement fortement, radicalement, leurs allocations à partir du 1er septembre.
Une réforme qui serait sur la sellette. Selon vous, il faudrait supprimer cette réforme de l'assurance chômage, Mathieu Grégoire ? Ce que demandent beaucoup d'associations, de syndicats, de personnalités de gauche.
On a rendu avec une collègue qui s'appelle Claire Vivès à la CGT un rapport sur 40 ans d'histoire de l'assurance chômage où on calcule les droits des salariés à l'emploi continu et à l'emploi discontinu. Et la conclusion principale de cette étude, c'est que si les droits des salariés à l'emploi continu, des salariés stables, est extrêmement stable depuis 40 ans et continue à être stable finalement dans la réforme de 2019, en revanche, celle des salariés à l'emploi discontinu est très variable et d'une certaine manière, la pire de toutes les réformes, c'est celle qui est prévue en 2019. Elle va radicalement modifier le calcul des allocations et on peut arriver à des montants qui sont difficilement compréhensibles dans le cas d'une assurance chômage. C'est-à-dire qu'on a des montants, on calcule des montants qui sont inférieurs, très inférieurs au RSA. Donc ça pose beaucoup de questions. C'est-à-dire que quand vous calculez pour ces salariés en emploi discontinu des allocations de l'ordre de 400 euros, de 300 euros mensuels, on peut se poser la question de savoir si on est encore dans une assurance chômage.
Revenons aux origines de l'indemnisation des intermittents. Au départ, il y a plusieurs questions. Comment les artistes doivent-ils être rémunérés et dans quelle mesure participent-ils à la richesse nationale? Écoutez ce qu'en dit Adam Smith dans ses recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, paru en 1776.
Le travail de quelques-unes des classes les plus respectables de la société ne produit aucune valeur. Quelques-unes des professions les plus graves et les plus importantes, quelques-unes des plus frivoles, doivent être rangées dans cette même classe. Les ecclésiastiques, les gens de loi, les médecins et les gens de lettres de toute espèce, ainsi que les comédiens, les farceurs, les musiciens, les chanteurs, les danseurs d'opéra, etc. Le travail de la plus vile de ces professions a sa valeur qui se règle sur les mêmes principes que toute autre sorte de travail. Et la plus noble et la plus utile ne produit par son travail rien avec quoi on puisse ensuite acheter ou faire une pareille quantité de travail. Leur ouvrage à tous, tel que la déclamation de l'acteur, le débit de l'orateur ou les accords du musicien, s'évanouit au moment même qu'il est produit. Les travailleurs productifs et les non-productifs, et ceux qui ne travaillent pas du tout, sont tous également entretenus par le produit annuel de la terre et du travail du pays. Ce produit, quelque grand qu'il puisse être, ne saurait être infini et a nécessairement ses bornes. Suivant donc que dans une année, une portion plus ou moins grande de ce produit est employée à entretenir des gens non productifs, plus ou moins grande sera la portion qui restera pour les gens productifs, et plus ou moins grand sera par conséquent le produit de l'année suivante. La totalité du produit annuel, à l'exception des productions spontanées de la terre, étant le fruit du travail productif.
Que vous inspire cette distinction entre travail productif et travail non productif, Mathieu Grégoire ?
C'est extrêmement daté, hein. On retrouve quelque chose là chez Adam Smith qui fait penser aux mercantilistes, qui fait penser à ces vieilles théories qu'Adam Smith rénove ou dépasse en essayant de ne plus limiter la production à des éléments que les physiocrates, par exemple, mettaient en avant. Donc, bon, c'est quelque chose qui est très daté et qui, en même temps, voilà, il y avait l'excommunication des comédiens, le XVIIIe siècle faisait des artistes du spectacle des sous-citoyens, d'une certaine manière. On pourrait parler aussi des luttes de Robespierre pour permettre l'accès à la citoyenneté aux comédiens, aux juifs et aux nègres, je crois. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée qui est que, au fond, la société a une très faible considération pour les comédiens pendant très longtemps.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que la rémunération des artistes au cachet, c'est une pratique qui est très ancienne.
Oui, aussi loin que je sois remonté dans les archives, c'est-à-dire en 1919, le cachet existe déjà. Alors, le cachet, c'est une rémunération forfaitaire qui rémunère un spectacle. Donc vous faites une représentation, vous êtes payé un cachet. Il n'y a pas de notion de temps de travail associé à ce cachet. Donc le cachet représente de façon forfaitaire le travail qui est nécessaire à la représentation, que celle-ci dure une demi-heure ou trois heures, voilà.
Et pour obtenir des cachets conséquents, dans l'entre-deux-guerres, les artistes n'en appellent pas à l'État, mais essayent d'obtenir des engagements de la part de leurs employeurs. C'est ce que vous expliquez dans votre livre.
Oui, alors l'entre-deux-guerres est un moment extrêmement libéral sur le marché du travail. Il n'y a pas de convention collective au sens où on l'entend aujourd'hui. Il n'y a pas un droit du travail extrêmement régulateur. Donc, au fond, la question qui se pose, c'est comment font des syndicats quand l'État n'intervient pas, ou peu, ou que le marché n'est pas régulé par en haut. Ce qui est intéressant, c'est de voir que comme dans les pays anglo-saxons aujourd'hui ou dans les décennies qui viennent de s'écouler, les syndicats ne restent pas les bras ballants quand l'État n'intervient pas, ne régule pas le marché du travail et tente eux-mêmes de réguler le marché du travail. C'est ce qu'on voit notamment chez les dockers et c'est ce qu'on voit énormément chez les artistes à Hollywood par exemple, avec des systèmes de closed shop, c'est-à-dire d'obligation d'avoir la carte syndicale pour pouvoir exercer le métier, pour pouvoir entrer sur le marché du travail. Ça permet de réguler le marché du travail, ça permet de créer de la rareté pour valoriser ceux, les happy few, qui sont sur le marché. Et ça permet aussi d'entretenir un rapport de force extrêmement puissant avec les employeurs, comme on l'a vu récemment avec la grève des scénaristes à Hollywood, qui font plier les majors en exigeant de manière unilatérale un certain nombre de conditions, de tarifs, etc. Donc c'était cette logique-là qui dominait en France jusqu'en 1936.
L'année 2019, qui est le point de départ de votre livre, Mathieu Grégoire, est une année importante dans l'histoire sociale des artistes parce que c'est cette année-là qu'il y a eu un regroupement au sein d'une grande fédération du spectacle sous la bannière de la CGT et également la première grande grève générale du secteur en septembre 1919.
Oui, alors en 1919, il y a une tentative qui va échouer assez rapidement d'unir tout le monde sous la bannière de la CGT. Mais très rapidement, les choses vont exploser en plusieurs sens. Et les syndicats, pour beaucoup, notamment les syndicats parisiens, les syndicats de musiciens parisiens, vont refuser de choisir entre la CGT socialiste et la CGTU communiste, en faisant primer l'idée que justement il faut que sur un marché du travail, il y ait un seul syndicat pour pouvoir être fort, rassembler face aux employeurs et pouvoir leur imposer des tarifs, ce qui est le plus important, des contrats types à l'époque, en empêchant la concurrence. Empêcher la concurrence, ça signifie qu'il ne faut pas qu'il y ait hors du syndicat de musiciens qui viennent proposer leurs offres à ces employeurs. Et donc, à l'époque, tous les moyens sont bons, y compris des moyens qui peuvent nous paraître violents actuellement, mais qui ressemblent à ce qui se pratique dans le syndicalisme anglo-saxon, c'est-à-dire notamment des mises à l'index des employeurs. Un employeur qui ne respecte pas les tarifs et mise à l'index, il est interdit à tous les syndiqués de travailler avec lui, et la mise au pilori des renégats, des jaunes, enfin, vous les appelez comme vous voulez, qui osent travailler avec ses employeurs et qu'il s'agit de tuer professionnellement en s'empêchant de travailler avec eux dans les 10 prochaines années, etc., etc. Donc il y a l'idée vraiment qu'on joue le rapport de force contre les employeurs et contre les jaunes pour obliger les employeurs à respecter un certain nombre de tarifs.
Mais dans les faits, de nombreux artistes ne parviennent pas à vivre de leur art, et plus encore au moment où la crise économique des années 30 démarre. Pour beaucoup d'artistes, il faut prendre un autre emploi alimentaire, et ça c'est une situation qui a perduré jusqu'à aujourd'hui.
Oui, alors c'est un petit peu ce à quoi faisait penser aussi votre extrait du départ, c'est-à-dire que la plupart des artistes dans le monde aujourd'hui sont confrontés à cette solution, disons, pour concilier sécurité économique et cette exposition à l'aléa marchand. La solution la plus simple, c'est le deuxième emploi, c'est le biprofessionnalisme. Et donc, on sait notamment que chez les écrivains dont il était question au début, il y a beaucoup d'enseignants. Donc, il y a le métier qui est le métier vocationnel d'écrivain et qu'on allie avec un deuxième métier qui assure la sécurité économique. Et ça, cette situation-là, elle est extrêmement présente dans le monde entier. Et en même temps, c'est cette situation-là qu'essaye de dépasser les syndicats à travers ces méthodes et à travers les différents horizons d'émancipation qu'ils ont essayé de construire dans l'histoire.
Et le travail intermittent va connaître une première reconnaissance juridique à l'occasion de la loi du 20 juin 1936 sur les congés payés, Mathieu Grégoire. C'est une date centrale pour le statut d'intermittent, si on peut parler de statut.
En tout cas, à ma connaissance, c'est la première fois où le terme est vraiment employé tel quel, pour une raison simple, c'est-à-dire que avant 1936, on se pose pas vraiment la question de savoir qui est intermittent, qui l'est pas. Il y a des ouvriers qui sont journaliers, il y a un spectre de situations sur le marché du travail qui est énorme. Il n'y a pas de CDI, de CDD, tout ça n'existe pas évidemment encore. Mais se pose une question avec la loi sur les congés payés, de savoir qui va payer les congés payés. Quand on a un emploi stable, effectivement, on n'a pas de difficulté, c'est l'employeur qui va payer les 15 jours de congés payés prévus par la loi. Mais que se passe-t-il quand on a 20, 30 employeurs dans l'année? Il faut 3 ans au secteur pour trouver une solution, pour créer une caisse, la caisse des congés spectacles, qui va naître en 39 et qui permet une socialisation de ces congés payés entre les différents employeurs de ces intermittents du spectacle. Donc c'est la première fois finalement qu'on voit quelque chose se passer, c'est les salariés à l'emploi stable qui commencent à construire des droits fondés sur la stabilité de l'emploi et des intermittents du spectacle qui sont contraints de trouver des moyens détournés pour bénéficier finalement de la même chose, puisque l'intermittence devient en quelque sorte un handicap pour accéder à ces droits sociaux en train de se construire.
Isabelle Fellmann, sur cette première reconnaissance du travail intermittent.
Je citerai aussi la date de 1939, qui est la création de la Caisse des congés spectacles, qui est gérée, comme vous le savez, depuis plusieurs années par le groupe Audience. Et je voulais, si vous me le permettez, revenir sur deux choses. Premièrement, j'abonde à nouveau dans le sens de M. Grégoire sur ses différences avec le monde anglo-saxon, puisque qu'il s'agisse de la Screen Actors Guild, de la Writers Guild of America ou la Directors Guild, ce sont des syndicats, des fédérations qui se sont structurés comme des organisations de gestion collective et qui, grâce à ce qu'ils appellent les droits d'exploitation, le secondaire, les residuals au départ, ont permis d'avoir un pouvoir financier tel qu'ils sont en position de négocier des cachets, bien sûr très importants, et d'imposer leurs adhérents. Voilà, donc il y a d'un côté un passage obligé vis-à-vis des intermittents, et d'un autre côté, une très forte puissance de représentation de la partie, on va dire, pas forcément en position dominante dans les négociations.
Ce qui est intéressant dans cette histoire des intermittents du spectacle, Mathieu Grégoire, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, les artistes vont revendiquer le statut de salarié. Il va y avoir cette philosophie-là avant un nouveau retournement.
Oui, enfin, disons qu'ils vont surtout réclamer le plein emploi. C'est-à-dire que si on considère un petit peu ce que veulent les artistes avant 1936, c'est se partager le gâteau, qui est considéré donc la billetterie, admettons, la part que représente le spectacle dans la richesse nationale, se le partager en étant le moins nombreux possible, dans une logique malthusienne visant à assurer des revenus décents en créant leur rareté. À partir de 36 puis de 45, on entre dans une logique totalement inverse, dans laquelle on dit, non, on va ajuster la production elle-même aux capacités productives, c'est-à-dire au nombre d'artistes, de techniciens qui existent dans le cinéma, dans le théâtre, etc. Et donc, on revendique des subventions, une politique culturelle, on revendique de faire vivre les théâtres, de faire vivre le cinéma, et on veut d'une certaine manière, ça c'est quelque chose qui fait beaucoup réfléchir, on veut la prospérité de ses employeurs. C'est-à-dire que le plein emploi, c'est avant tout de dire que les acteurs ne veulent pas mourir de la mort du théâtre. Et donc on est dans une situation paradoxale, parfois, où les syndicats de salariés vont être amenés à défendre ardemment les intérêts de leurs employeurs.
Et en effet, on est à partir de 1946 dans un contexte où se mettent en place des politiques de décentralisation culturelle, et ça c'est un moyen de créer des emplois stables pour les artistes.
Oui, alors l'idée c'est effectivement d'essayer de stabiliser, c'est-à-dire d'une certaine manière l'intermittence, comme je le disais avec l'exemple des congés spectacles, l'intermittence devient en quelque sorte un handicap, par contraste avec les droits qui sont en train de se constituer dans l'ensemble du salariat. La sécurité sociale, les retraites, tous ces dispositifs de protection sociale sont construits sur le modèle de l'emploi stable. Et donc du coup, la tentation des syndicats à ce moment-là, c'est d'essayer de stabiliser au maximum l'emploi de ces salariés intermittents. Et donc l'intermittence devient en elle-même un problème. Et un des moyens de lutter contre l'intermittence, c'est évidemment d'augmenter la production. L'autre moyen, c'est de faire reconnaître comme relevant du travail un certain nombre de temps, de temporalité, qui ne sont pas reconnus comme relevant de l'emploi. Et donc, il y a toute une lutte pour obliger les employeurs à payer les répétitions, à reconnaître des temps plus larges de préparation, etc.
stabiliser l'emploi. Et puis l'autre enjeu dans les années 50, c'est de réguler le travail amateur qui représente une concurrence, Mathieu Grégoire.
Oui, parce que alors c'est un peu les deux faces de la même pièce, c'est-à-dire il y a l'idée qu'il faut que tout le travail soit reconnu dans l'emploi, mais il faut aussi que tout le non-travail soit reconnu comme du non-emploi et que les gens qui sont en marge du marché du travail soient vraiment reconnus comme étant des amateurs dans une pratique de loisir et que ça donne pas lieu à rémunération, que ça ne soit pas une concurrence et qu'on réserve la pratique professionnelle de ces activités à des professionnels payés et qu'on segmente du coup très bien ces deux côtés de l'activité, la pratique bénévole d'un côté et la pratique professionnelle de l'autre.
Isabelle Feldman, sur cette distinction entre travail et emploi qui est au cœur des enjeux pour les artistes dans les années 50.
Dans les années 50, il y a une distinction à faire peut-être entre les techniciens et puis les artistes interprètes, puisque les seconds, en fait, contribuent de façon plus ostentatoire à la création et se défendent sur le plan de la concurrence déloyale pour leurs droits qui vont devenir, à partir de 1985, des droits voisins d'auteur et qui vont bénéficier, à partir de 1969, de la présomption de salariat. Donc, je pense qu'il y a un professionnalisme qui est moins évident pendant les années 50 et qui est beaucoup moins reconnu pour ces acteurs de la création, ces travailleurs de la création.
Il faudra attendre la fin des années 70 pour que naisse véritablement le régime de l'intermittence, un dispositif qui continue aujourd'hui encore à faire débat. On en parle dans un instant.
Mais qu'est-ce qui nous fabrique avec leurs acédiques? Il paraît qu'ils sont pas contents, mais qu'est-ce qui leur prend? Je les rencontre rue Bergère, y'en a qui exagèrent. Sur le trottoir j'en vois qui pleurent, j'ai pas mes heures. Ils bossent une heure, ça en fait 12. Qui s'étonne pas qu'on les jalouse? Qu'ils soient chômeurs, moi ça me résiste, ils sont artistes. C'est eux les intermitteux, les intermutants, les interminables. Tout en comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable. J'aurais pas cru que de faire le con, ça soit un métier pour de bon. Mais qu'est-ce qui nous trafique avec leurs acédiques? Paraît même qu'il y en a qui trichent, remplissant leurs fiches. Tous ceux qui passent à la téloche, ils s'en foutent plein les poches. Sans doute que ceux qu'on voit jamais, ils sont mauvais. Et toujours, toujours, ils se plaignent. Moi, je trouve ça mériterait des beignes. Ils ont qu'à se lever le matin, comme les copains. C'est eux les intermitteux, les intermutants, les interminables. Tout en comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable. J'aurais pas cru que de faire la fête, ça vous donnait des points de retraite.
La Java des acédiques d'Anne Sylvestre sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous continuons à suivre les pas des intermittents du spectacle en compagnie d'Isabelle Feldman, secrétaire générale au sein du groupe Audience, et en compagnie du sociologue Mathieu Grégoire. Alors on a vu dans la première partie de cette émission que la reconnaissance du travail intermittent des artistes avait donné lieu à des protections à partir des années 20. Mais dans les années 60, un changement intervient. Les annexes 8 et 10 sont ajoutées au règlement de l'UNEDIC. L'objectif, Mathieu Grégoire, c'est d'inclure les techniciens du cinéma et les artistes du spectacle dans l'assurance chômage.
Oui, alors c'est un moment qui est relativement symbolique, hein, parce qu'à l'époque, quand vous lisez les archives notamment, les syndicats en parlent sur quelques dizaines de lignes. Hein. Donc on n'est pas sur quelque chose qui, à l'époque, a de l'importance pour les acteurs, et les acteurs n'ont pas la conscience de l'importance que vont prendre ensuite les annexes 8 et 10. Et effectivement, l'idée, qui est celle de l'État, du gouvernement, c'est d'élargir la couverture chômage à tout un tas de professions, de métiers qui ne bénéficient pas de l'assurance chômage, parmi lesquels on trouve des dockers, on trouve des saisonniers, on trouve des bûcherons, on trouve plein de choses, y compris du coup des techniciens du cinéma et des artistes du spectacle, qui vont être intégrés en 64 puis en 68.
Mais il y a une question qui se pose, qui est qui doit payer alors que le risque dans le milieu du cinéma est beaucoup plus élevé?
En fait, l'annexe 8, donc réservée au cinéma, est d'abord créée en 64 à titre expérimental, et la conclusion de l'expérience d'après le CNPF est négative. Donc il y a une décision de suppression de l'annexe 8 des techniciens du cinéma suite à ses premières années de fonctionnement.
CNPF qui est l'ancêtre du MEDEF.
Voilà. Simplement, c'est justement là où intervient la puissance publique et c'est l'État, par les ordonnances de 67 sur l'emploi, qui impose au CNPF de prendre en charge l'ensemble de tous ces salariés un petit peu particuliers qu'on a mis dans des annexes, y compris les techniciens du cinéma. Et il en rajoute une couche un an plus tard en intégrant les artistes du spectacle.
Donc les techniciens du cinéma et les artistes du spectacle sont inclus dans l'assurance chômage, mais les musiciens instrumentistes, eux, ont encore du mal à s'en sortir, comme on l'entend dans cette archive du 9 février 1969.
Les musiciens instrumentistes ne sont pas des ronds de cuir. Ils doivent toute l'année chercher leur emploi, et depuis longtemps ils ont établi leur bourse du travail au cœur de Montmartre. Ils vont vous dire qu'ils sont loin de rouler sur l'or, ceux dont le métier est de distraire.
On m'a dit qu'avant c'était tous les jours le marché aux musiciens.
Oui, à Pigalle, oui. Alors maintenant ça s'est réduit que le mardi soir.
Pourquoi donc?
Parce qu'il n'y avait pratiquement plus personne les autres jours.
Oui, mais non, je veux dire pourquoi, il y a donc moins de musiciens?
Il y a moins de musiciens, puis il y a moins d'affaires surtout.
Enfin, moi je suis accordéoniste, mais je joue également de la batterie, du piano et de l'orgue. Alors ça me permet de faire un peu tout.
Quand il n'y a pas de boîte où jouer, on est obligé de venir chercher du travail là où il y en a. Je crois qu'ici, il n'y en a pas tellement. Hein.
Là, il n'est pas là, mon ami Roland. Je vous ai dit, tu ne connais pas un site show qui est allé pour samedi? Ah, il dit, bah, ça tombe bien, j'en ai un. Bon, parce que voilà, ça va
faire. Ah, vos musiciens, vous les avez trouvés à marché aux musiciens à Pigalle?
Pas forcément. Des fois, quand j'en ai un de malade, je vais à Pigalle en chercher un, quoi.
Qu'est-ce que vous faites, faire la musique des gens qui se marient?
Moi, bah, maintenant, ça ne me fait plus rien, j'en ai tellement fait, quoi.
Vous n'avez plus d'émotion?
Ça ne me fait plus rien maintenant.
Moins de musiciens et moins d'affaires. Que vous inspire cette archive de 1969, Mathieu Grégoire?
Les intermittents à l'époque sont intermittents au sens de l'emploi. Mais ce que j'ai omis de dire sur le régime d'assurance chômage, c'est qu'en réalité, personne n'est éligible. Très peu de personnes parviennent à atteindre les seuils d'éligibilité de l'époque, qui sont à 1000 heures par an. Et donc, ce dispositif d'assurance chômage reste symbolique et ne concerne que des vedettes, on peut dire, qui travaillent beaucoup, plus de 1000 heures par an, et qui connaissent un trou de carrière exceptionnel. Donc autant dire qu'on est sur l'indemnisation d'un trou de carrière, on n'est pas sur l'indemnisation courante de l'intermittence de l'emploi, comme ce sera le cas à partir de 79.
C'est cela, ça va changer à partir de 79. Il va y avoir un véritable changement de philosophie à partir de ce moment-là, Mathieu Grégoire?
C'est pas tout à fait un changement de philosophie, parce qu'au départ, encore une fois, personne n'a vraiment conscience de ce qui va se passer. Mais la CGT revendique que les seuils d'accès à l'indemnisation du chômage ne soient pas discriminatoires. C'est-à-dire que les seuils qui sont prévus pour le régime général, qui sont de 3 mois d'emploi qui ouvrent droit à 1 an d'indemnisation du chômage, soient les mêmes pour les artistes du spectacle. Et donc c'est à ce moment-là où on décide que 3 mois, c'est 13 semaines à 40 heures, ça fait 520 heures, on décide de passer de 1000 heures à 520 heures. Et c'est ce passage de 1000 heures à 520 heures qui va radicalement modifier la signification du régime d'indemnisation des intermittents du spectacle. Parce que de fait, au lieu d'indemniser des gros trous de carrière, on va commencer à indemniser des périodes interstitielles d'emploi dans le cadre d'une intermittence continue de l'emploi.
Et ces indemnités vont être versées par l'UNEDIC, là où les trous de carrière, eux, sont financés par l'État.
Oui, d'une certaine manière, puisque, mais ça, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un intermittent, contrairement à un salarié stable, lorsqu'il connaît un trou de carrière, lorsqu'il connaît une grosse difficulté, il sort de l'assurance chômage, alors qu'un salarié stable, évidemment, tombe au chômage et commence à être indemnisé. Les intermittents, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que quand tout va bien, ils sont indemnisés, et quand tout commence à aller mal, on les exclut de l'indemnisation du chômage et ils se retrouvent aux minima sociaux, au RSA, etc.
Vous avez parlé du Centre National du Patronat Français, le CNPF. Effectivement, ces réformes donnent lieu à des conflits avec le patronat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi?
Alors, très rapidement, les salariés vont comprendre les potentialités de ce régime et le patronat va aussi comprendre la difficulté qu'il a à se débarrasser de ce scotch social qui va lui tenir à la peau pendant 30 ans. Donc les intermittents commencent à se mobiliser pour défendre leurs annexes 8 et 10, et systématiquement, le CNPF va menacer pendant 30 ans de supprimer les annexes 8 et 10, avec une difficulté.
Mais peut-être pour bien comprendre, le CNPF estime qu'avec ce système, l'UNEDIC finance non pas une indemnisation chômage, mais la politique culturelle du pays, à une époque où, durant le premier septennat de François Mitterrand en particulier, une grande politique culturelle est lancée.
Oui, alors de manière un petit peu plus prosaïque, il faut aussi mentionner que la plupart des employeurs du spectacle ne sont pas représentés au CNPF ou au MEDEF. Contrairement, par exemple, aux employeurs de l'automobile qui emploient des intérimaires, etc., qui, intérimaires qui ont une annexe aussi, une annexe 4 à l'époque. Donc, le CNPF, au fond, défend les intérêts de ses mandants et les employeurs du spectacle n'en font pas partie. Donc, ils n'ont pas vraiment de raison de défendre ce secteur qui leur représente surtout un coût pour eux, alors qu'il n'y a aucune remise en cause, en tout cas pas de la même nature et pas de façon aussi régulière, de l'annexe 4 des intérimaires.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est un modèle qui profite aux artistes, mais aussi aux employeurs. Ça leur permet de faire peser certains coûts salariaux sur l'assurance chômage, Isabelle Feldman.
Oui, bien sûr. Je pense que les employeurs, enfin nous, on le vit véritablement dans des dispositifs que le groupe a mis en place justement grâce à des accords collectifs. On a un accord interbranche qui permet d'avoir un fonds collectif de prévoyance et de santé pour les intermittents et qui est un dispositif en fait de mutualisation.
Je rappelle pour les auditeurs, Isabelle Feldman, que vous êtes effectivement secrétaire générale au sein d'Audience, le premier groupe de protection sociale du monde de la culture.
Oui, donc en fait Audience a mis en place toute une série de dispositifs spécifiques d'accompagnement professionnel et social grâce à donc l'initiative des partenaires sociaux, hein, tant organisations patronales que de salariés. Donc depuis 2006, un accord donc interbranche qui a permis donc de prévoyance de mettre en place une couverture prévoyance pour ces intermittents, artistes et techniciens, et par ailleurs une garantie depuis 2008, une couverture santé pour qu'ils aient la possibilité de bénéficier de remboursement de frais de santé et de prestations de santé.
Mais pour rester un petit peu sur cette période des années 80 et sur les entreprises qui bénéficient de cette intermittence.
Chacune en fait est obligée, s'il n'y a pas de couverture sociale dès les années 80, c'est chacun pour soi. Les dispositifs de mutualisation ont été mis en place à partir de 2006 pour la prévoyance.
On peut se demander ce qui explique l'explosion du nombre d'intermittents entre 1980 et aujourd'hui. Mathieu Grégoire, ils étaient 9000 à l'époque contre environ 270 000 aujourd'hui. Est-ce que c'est lié au fait que ce statut, ce régime de l'intermittence est particulièrement intéressant pour les entreprises qui peuvent en abuser?
Les chiffres que vous donnez sont pas tout à fait homogènes. Ces 270 000, c'est les chiffres d'Audience qui recensent absolument tous les cachets ou toutes les interventions en tant qu'intermittent du spectacle qui ont lieu chaque année en France. Mais donc ça veut dire y compris l'intervention du professeur de conservatoire qui va donner un concert par-ci par-là. Donc on l'identifie comme intermittent du spectacle. Mais en réalité, dans ces 270 000 personnes, il y a beaucoup de gens qui sont bien autre chose que intermittent du spectacle. Il y a des fonctionnaires, il y a, voilà. Donc, et par ailleurs, il y a tous ceux qui sont...
Ils sont 310 000 en 2018 et parmi ce nombre, on compte les intermittents occasionnels ou professionnels, et parmi les professionnels, sur ces, on va dire, de façon très, très récurrente, on a moins, on va dire, peut-être 200 000, quoi.
Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, le chiffre des personnes qui sont indemnisées régulièrement par les annexes 8 et 10 tourne plutôt autour de 100, 120 000, ce qui est beaucoup moins important que, voilà, les 300 000 personnes que recense Audience par ailleurs. Ouais. Donc le passage de 10 000 personnes à 100 000 personnes, il est aussi le fruit d'un dynamisme économique du secteur. Il y a une explosion effectivement de la production artistique dans les années 80-90. Donc il y a ce premier effet donc d'augmentation du secteur qu'on mesure très bien quand on regarde la production, la masse de production dans les différents secteurs du spectacle. Et puis il y a la prise de conscience progressive qu'ont les intermittents du spectacle de l'intérêt du dispositif des années 8 et 10. Donc il y a une montée en puissance des années 8 et 10, simplement parce que les intermittents prennent conscience qu'il faut aller s'inscrire aux ACEDIC à l'époque, ce qui fait qu'on passe d'une certaine manière de zéro ou pas loin de zéro en 1979 à ce chiffre de 100 000 aujourd'hui, en 40 ans.
Mais pour le sociologue Pierre-Michel Menger, par exemple, c'est à cause des abus, notamment de la part de sociétés de production audiovisuelle qui ont recours à ce régime de l'intermittence, qu'aujourd'hui le régime est largement déficitaire et qu'il l'est depuis 30 ans, Isabelle Feldman. Qu'est-ce que vous en pensez?
Largement déficitaire, ça dépend sur quel niveau on se situe, parce que il n'est pas rapporté, enfin de moi je n'ai pas là les chiffres sous les yeux, mais il n'est pas rapporté que le régime des intermittents soit aujourd'hui déficitaire au niveau de l'assurance chômage. Il faudrait prendre la part les intermittents au sein de l'assurance chômage et le groupe de protection sociale aux gens qui ne peut pas y répondre, c'est Pôle emploi qui pourrait y répondre, au sein du montant total pour l'ensemble des salariés permanents et intermittents.
Mathieu Grégoire, on se souvient qu'en 2012, Patrick Lelay, ex-PDG de TF1, avait été condamné à verser des amendes à des intermittents du spectacle qui enchaînaient les CDD depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ?
C'est vraiment une perspective qui est, à mon avis, assez liée aux pratiques de l'intermittence dans l'audiovisuel, et en particulier à la radio, où l'intermittence est utilisée pour salarier des personnes 10 mois dans l'année, etc. Donc, c'est ce qu'on a appelé la permittence, très souvent.
Ce sont les contrats de grille.
Voilà, c'est assez particulier, parce que c'est souvent des personnes qui sont assez singulières au sein des intermittents. D'une part, parce qu'elles travaillent beaucoup dans l'année, et d'autre part parce qu'elles touchent finalement peu d'indemnisation chômage, du fait qu'elles sont beaucoup en emploi, et qu'elles ont plus ou moins un seul employeur, du moins elles ont un employeur principal. Donc c'est une configuration qui est quand même extrêmement particulière, qui est celle qu'on a appelée à la fin des années 2000 la permittence, c'est-à-dire que là on parle des moins intermittents des intermittents. En revanche, je voulais juste sur la question du déficit, parce que il y a une construction sociale, historique, de cette idée de déficit qui apparaît au fil des années, sous l'effet du CNPF, puis du MEDEF, avec l'idée qu'il faut faire une comptabilité analytique au sein de l'assurance chômage. Il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de régime des intermittents du spectacle, donc c'est la première raison pour laquelle il n'y a pas de déficit des intermittents du spectacle, parce qu'il n'y a pas une caisse des intermittents du spectacle, il y a une caisse de l'assurance chômage. Et c'est là-dessus, sur cette comptabilité analytique, qui va distinguer des dépenses et des recettes d'une population particulière, que va se fonder ce constat du déficit. Je voudrais juste vous citer Michel Sapin, dont j'ai le texte sous les yeux, qui s'exprimait à l'Assemblée nationale en février 2013 et qui disait « Beaucoup de commentateurs, et il y en est de toutes sortes, à l'instar de la Cour des comptes, aiment à imputer un déficit de 1 milliard d'euros au régime des intermittents. L'assurance chômage est bâtie sur une logique de solidarité interprofessionnelle. Il est logique que ceux qui connaissent le plus de risques, les intermittents, mais aussi tous les salariés en CDD ou en intérim, bénéficient de l'appui de ceux qui ne connaîtront pas ou peu le chômage. Chercher à identifier un déficit qui serait propre à une catégorie d'actifs ne fait pas de sens. Je n'ai vu personne calculer le déficit de l'assurance maladie en le limitant au seul patient ou celui de la branche famille en le limitant au seul ménage avec enfant. »
Et pourtant, en 2002, l'UNEDIC décide de doubler les cotisations patronales et salariales pour l'emploi d'intermittents du spectacle.
Oui, c'est la dynamique, d'une certaine manière, de prophétie autoréalisatrice qui se met en branle à ce moment-là, c'est-à-dire l'idée pour le CNPF, qu'il faut créer une caisse pour créer ce déficit, c'est-à-dire d'une certaine manière pouvoir responsabiliser des employeurs, les mettre dans une case à part, les désolidariser du reste du salariat, pour qu'ils gèrent une caisse professionnelle, éventuellement abondée par l'État si le ministère de la Culture a envie de l'abonder. Et donc ça, c'est le projet du CNPF, puis du MEDEF, qui a toujours été celui-là, de sortir ses salariés particuliers de l'ensemble des solidarités du salariat. Et ça, c'est un projet qui, donc, du coup, donne lieu à des réalisations progressives, et dont le fait de faire cotiser double les employeurs du spectacle est un des premiers jalons.
Et autre coup porté à ce régime de l'intermittence, le 26 juin 2003, un accord entre les organisations patronales et syndicales entraîne un recul de l'indemnisation, ce qui va provoquer un mouvement social massif. Le Festival d'Avignon est annulé. Écoutez son ancien directeur, Bernard Fèvre d'Arcier, suivi du témoignage d'un comédien.
Maintenant, effectivement, je peux, hélas, annoncer que le 50e festival n'aura pas lieu cette année 2003. C'est une décision que je prends, donc, d'arrêter le festival en accord avec le conseil d'administration et les tutelles que nous avons rencontrées hier et ce matin.
On était tous, chacun, avant d'arriver à Avignon, dans une réalité où on avait envie de jouer, où on était dans nos répétitions et tout ça. Puis on arrive ici et on se dit, on ne peut pas faire comme si, c'est pas possible. Or, effectivement, les politiques nous ont prouvé que le seul moyen de pression au jour d'aujourd'hui était la grève. C'est terrible pour nous, hein, d'annuler le spectacle, de faire grève. Mais en même temps, moi, je vous assure, je me sens absolument incapable de jouer aujourd'hui.
Mathieu Grégoire, de quoi cette crise de 2003 est-elle le nom, selon vous ?
C'est le nom de la victoire de la refondation sociale, qui est le projet du CNPF qui devient à ce moment-là le MEDEF, qui réclame le respect du paritarisme, qui veut contrer le tripartisme qui a cours dans l'assurance chômage depuis toujours, en exigeant de l'État qu'il arrête, qu'il cesse d'intervenir dans les affaires, notamment de l'assurance chômage. Et c'est quelque chose qui a été repris par la droite dans la campagne de 2002, en jouant sur l'image d'autoritarisme dont avait fait preuve l'État à travers la figure de Martine Aubry à l'occasion des 35 heures, puisque l'État socialiste, à ce moment-là, avait imposé les modalités des 35 heures au CNPF, qui en était fort meurtri, et qui, du coup, exigeait qu'on respecte le dialogue social. Et d'une certaine manière, c'est cet engagement-là de la droite qui fait que ce qui se passait jusqu'alors, c'est-à-dire le fait que l'État s'interposait en permanence contre le CNPF dès lors qu'il voulait réformer les annexes 8 et 10, eh bien l'État, cette fois-là, ne s'interpose pas, laisse faire le MEDEF, et on obtient une première réforme dure qui limite les droits des intermittents du spectacle.
Et c'est cette même année, en 2003, qu'est créé le groupe de protection sociale pour les professionnels de la culture, Audience, où vous occupez un poste de secrétaire générale, Isabelle Feldman.
Oui, absolument. Donc Audience a été créée en 2003 et elle couvre de nombreux services puisque elle s'occupe, alors non seulement pour les intermittents, mais pour tous les acteurs de la culture, sans jeu de mots, c'est-à-dire toutes les professions du secteur culturel en matière de retraite complémentaire, assurance et épargne, accompagnement social et solidaire, le médical et la prévention. Vous savez que nous avons ouvert un centre médical là, qui a ouvert en début d'année au 7 rue Bergère dans le 9e, dédié aux intermittents, comme à tous les adhérents et professions. Et le service aux professions, ainsi que bien sûr la gestion des congés spectacles. Nous travaillons bien sûr aussi aux côtés d'organismes institutionnels extrêmement importants en matière de prévention aussi auprès à côté du CMB et de l'AFDAS. Donc voilà pourquoi nous avons une multitude de services. Nous sommes, j'allais dire, une sorte de plateforme sociale et professionnelle, d'accompagnement social et professionnel de tous nos publics, dont font partie, bien entendu, les intermittents, puisque nous avons des systèmes qui leur sont spécifiques et propres à la France, qui n'existent nulle part ailleurs, ni en Europe, ni dans aucun autre pays, comme ces fonds collectifs. Et je pense véritablement que dans cette période de crise, dont je ne sais pas quand nous allons sortir, le principe de la mutualisation est une piste de solution qui va certainement prendre toute son importance.
Il faut noter aussi qu'une nouvelle crise est survenue en 2013, 10 ans après la crise de 2003, mais que cette fois, Mathieu Grégoire, c'est l'État qui va reprendre la main.
Oui, exactement. Début 2014, le MEDEF annonce son intention, au début des nouvelles négociations d'assurance chômage, de supprimer les annexes 8 et 10. Radicalement. Et donc, le gouvernement socialiste se trouve pris en tenaille entre, d'une part, l'intérêt qu'il éprouve pour les intermittents du spectacle, et d'autre part, les nouveaux engagements du président Hollande vis-à-vis, justement, de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire du respect du dialogue social. Et donc, François Hollande avait fait de ce respect du dialogue social et du respect de la démocratie sociale l'alpha et l'oméga de sa politique en termes social. Et donc, devait respecter les négociations menées par le MEDEF, mais de l'autre côté, se trouvait dans l'impossibilité de laisser tomber les intermittents. Alors ce qui s'est passé, in fine, c'est que le MEDEF a renoncé à supprimer les annexes 8 et 10, mais a créé un dispositif qui diminuait drastiquement les droits des intermittents du spectacle.
Ce qui a été contesté notamment, c'est l'introduction d'un différé d'indemnisation à partir d'un certain niveau de volume et de salaire horaire de travail.
Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais alors une des ironies de l'histoire, c'est que à ce moment-là, le Parti socialiste est vent debout contre ce différé, et notamment les intermittents arrivent avec une proposition positive. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas que dans la défense, mais aussi dans la construction. Ils proposent que soit étudiée leur solution, et le maire de Dijon, François Brahetsamen, signe la tribune en février, je crois, ou en mars, signe la tribune de défense de ce système des intermittents pour un système juste et équitable, je crois que ça s'appelait la tribune, et 3 semaines plus tard, se retrouve ministre du Travail en charge d'agréer la convention prévue par le MEDEF et la CFDT. Et donc la revendication devient le non-agrément. Les intermittents demandent à François Rebsamen de tenir sa parole, parole qui sera obligée de ne pas tenir en agréant la convention. Alors simplement, l'État va geler le conflit en payant lui-même le coût de ce différé, le temps de construire une concertation qui va avoir lieu dans les années qui ont suivi, en 2014 et en 2015.
On approche du terme de cette émission. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Mathieu Grégoire, Isabelle Feldman? Quel avenir pour le régime des intermittents qui a été épargné en quelque sorte par la réforme de l'assurance chômage dont on se demande aujourd'hui si elle sera annulée ou non? Mathieu Grégoire.
il y a eu une victoire très claire des intermittents de leurs organisations en 2016 et qu'on est revenu à des conditions qui ne sont pas celles qui sont antérieures à 2003, mais qui sont des dispositions qui sont relativement favorables aux intermittents du spectacle, en tout cas qu'ils ont négocié, qu'ils ont accepté via leurs organisations et qui ont été effectivement, comme vous le disiez, maintenues l'année dernière dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage. Mais dans le même temps, et c'est ça qui rend la situation extrêmement inconfortable, les droits des salariés à l'emploi discontinu hors spectacle, eux, ont été largement, se sont effondrés et risquent de s'effondrer au 1er septembre si la réforme de l'assurance chômage finit par passer. Donc la situation est un petit peu en suspens, mais il est clair que si cette réforme de l'assurance chômage devait se maintenir, les intermittents se trouveraient dans une situation extrêmement inconfortable à bénéficier une indemnisation relativement correcte de l'intermittence de l'emploi, quand tous les autres intermittents de l'emploi se retrouveraient dans une misère assez sombre.
Isabelle Feldman.
Oui, non, je pense que c'est pour moi un régime social avec toute cette protection sociale spécifique qui est un magnifique édifice pour pouvoir soutenir la culture. C'est un modèle social qu'il faut conserver. Je pense que les pouvoirs publics l'ont compris. Avec l'aide des organisations, des syndicats représentatifs, je pense qu'il peut être adapté parce qu'on ne sait pas, les tournages par exemple en ce moment sont assez particuliers pour l'audiovisuel puisqu'on sait que ces tournages continuent à se faire dans des conditions assez inédites, avec des ambiances différentes, un public qui est recréé. On ne peut pas renoncer à la culture, on ne peut pas la faire disparaître. Je pense que les intermittents font partie de la culture. Ces dispositifs sociaux doivent être encouragés, mais j'allais vous dire, pour que les intermittents restent, il faut aussi aider les entreprises qui les emploient. Donc tout va dépendre en fait des politiques publiques qui vont être mises en place pour que la culture perdure malgré cette crise du Covid et celle qui, de façon économique, bien sûr, est concomitante. Voilà, je pense que vraiment, on a besoin de tous, des organisations représentatives et des pouvoirs publics.
La mise à l'arrêt du monde du spectacle en raison de la pandémie fragilise un grand nombre de professionnels. Thomas Quillardet est dramaturge et metteur en scène. Avec sa compagnie 8 avril, l'auteur de Tristesse et joie dans la vie des girafes a dû reporter 4 créations. S'il se réjouit du maintien de son statut d'intermittent, il s'inquiète de ne pouvoir financer ses prochains projets. On l'écoute au micro de Xavier Martinet.
On a un CDI dans la compagnie, qui est la co-directrice de la compagnie, qui s'est mise au chômage partiel très vite, en fait. Et tous les autres, nous sommes intermittents du spectacle, embauchés par la compagnie. Et donc, on mise, et tous les artistes qui travaillent avec nous et tous les techniciens misent sur la reprise du travail à l'automne, à partir d'août, septembre, octobre. Donc, pour l'instant, je dirais que c'est un report de salaire, d'heures qu'on doit faire sur l'automne. Et tous les artistes avec qui on travaillait, et puis aussi au sein de la compagnie même interne, on a posé la question de savoir si les gens avaient besoin d'avance de salaire, parce que forcément, quand un spectacle comme le nôtre était prévu pour mars, avril, mai, ça fait un gros trou de trésorerie pour tout le monde. Pour l'instant, tout le monde attend sagement le report à l'automne pour toucher ce qu'il doit toucher en termes de salaire et de signer ses contrats. Mais si c'est reporté à l'automne aussi, là, ça va devenir très, très compliqué pour tout le monde.
Et précisément, alors, cette année blanche pour les intermittents, comment est-ce qu'elle a été perçue, sachant qu'elle a été demandée par certains collectifs d'intermittents, mais est-ce qu'elle permettrait de tenir pendant un an ?
Il y a une grosse ambiguïté. On n'a pas de réponse à certaines questions très, très importantes. Je vais prendre mon cas précis. Moi, donc, je suis intermittent du spectacle, évidemment. J'ai mes 507 heures. Je vais renouveler mon intermittence le 21 juin pour 12 mois. Mais si je ne travaille pas du tout pendant cette année, eh bien, au 21 juin 2021, est-ce que je serai reporté d'un an n'ayant pas travaillé? Ou est-ce que mon intermittence se renouvellera automatiquement jusqu'au 31 août 2021, comme l'a annoncé Emmanuel Macron? C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas si les gens qui vont faire des heures ou ne pas faire leurs heures vont pouvoir reporter leurs droits sur une année dans le cadre qui nous a été donné, c'est-à-dire 31 août 2021.
Oui, parce qu'il n'est même pas dit que ces 507 heures soient faites. Alors là encore, il y a eu quelques pistes qui ont été évoquées par Emmanuel Macron, notamment du temps périscolaire pour les intermittents. Il disait on a besoin de vous à l'école avec une ou deux demi-journées par semaine, d'autres formes de colonies de vacances. Ça vous semble faisable, possible pour en vivre? C'est déjà ce qui est fait un peu, non?
Je pense sincèrement qu'il a lancé un petit peu ça à la cantonade, un petit peu dans l'improvisation, sans savoir exactement ce qu'il en retournerait derrière. Je ne suis pas sûr, pour le prendre au mot, que les directeurs et directrices d'école souhaitent accueillir des intermittents pour enseigner à leurs enfants. Ça leur mettrait encore plus de complications en termes sanitaires et aussi en termes de gestion d'équipe. En revanche, ce qu'on fait déjà, et ce que je fais depuis une quinzaine d'années, et je suis loin d'être le seul, c'est que je vais déjà dans les écoles, dans les centres, avec des enfants l'après-midi, notamment parler en tout début d'entretien de l'encyclopédie des super-héros, qui est un spectacle jeune public pour une soixantaine de personnes. C'est un spectacle qu'on joue dans les écoles, qu'on joue dans les cours de récréation. C'est quelque chose que nous faisions déjà, mais nous invitons un spectacle à part entière dans l'établissement scolaire. Par contre, animer des ateliers de colonies de vacances, je ne sais pas le faire. Alors, c'est très important d'avoir un président de la République qui parle de culture. C'est pas le cas dans tous les pays. C'est là où c'est toujours ambigu et complexe. Mais en même temps, c'est vrai que sur le terrain, quand j'appelle les directeurs et les directrices de lieux, on se retrouve dans un cas par cas qui est un petit peu dangereux parce qu'il commence à diviser la profession.
Dernière chose, puisque vous parliez de l'attitude des autorités politiques envers le secteur culturel, en Grèce et en Belgique, récemment, des artistes ont manifesté ou fait des pétitions pour que l'État assure une certaine continuité de leurs revenus, puisqu'il n'y a pas de dispositif d'intermittence prévu pour eux. Il est pourtant controversé en France, dans son extension, voire sa légitimité. Alors vous, qui avez aussi beaucoup tourné au Brésil, est-ce que vous trouvez toujours que c'est un dispositif assez protecteur pour vous et le spectacle vivant ?
Bien sûr, donc, effectivement, moi je suis très proche du Brésil où j'ai déjà travaillé, où j'ai beaucoup d'attaches personnelles et je vois bien les ravages, mais les ravages profonds en fait que l'absence d'un tel système comme le nôtre fait, l'absence d'ailleurs de tout système d'assurance chômage puisque le Brésil en est très très dépourvu, eh bien c'est très concret, c'est des artistes qui arrêtent de travailler, qui retournent vivre chez leurs parents, qui n'ont plus d'outils de travail, et donc oui, c'est un régime d'assurance chômage qui est toujours très clivant, mais il est aussi source d'emploi. Et aussi, moi par exemple, dans mon cas, il faut bien préciser que ce que je gagne avec l'intermittence représente entre 25 et 30% de mon salaire. Hein, on vit très chichement de l'intermittence, très très peu. Donc c'est un filet de sécurité, un revenu complémentaire pour nous aider dans des périodes un petit peu plus difficiles, mais ce n'est pas un salaire attentiste en fait. Hein, il est générateur d'emploi, il nous demande de créer de l'emploi aussi pour l'obtenir. Et c'est toujours des visions à court termiste que de le critiquer ou de nous considérer comme des privilégiés, parce qu'au bout de la chaîne, ce système crée créer de la richesse en France.
C'est avec Tilacine et son nouveau titre Sati 1 que notre émission s'achève. Merci beaucoup Isabelle Feldman et Mathieu Grégoire de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Mathieu Grégoire, je renvoie les auditeurs à votre ouvrage Les intermittents du spectacle, enjeux d'un siècle de lutte de 1919 à nos jours, paru aux éditions de La Dispute. Demain, on se place du côté des consommateurs de culture avec Philippe Bailly, directeur du cabinet NPA Conseil, et Éric Neveu, politiste et sociologue. Mais d'abord, je vous laisse en compagnie des œuvres avec Mathieu Garrigou-Lagrange. Excellente journée et à demain.